Nous allons lire dans le livre des rois, deuxième livre des rois, au chapitre 5. Deuxième livre des rois, au chapitre 5. Deuxième livre des rois au chapitre 5. Il est écrit ceci. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre, où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre ? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? « Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimmon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimmon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon. » Élisée lui dit, « Va en paix. » Alors, le gros de notre message se trouve dans le verset premier. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Il est écrit, mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Ça, c'est un détail en plus qu'on rajoute, à part ce qui a été dit avant. Parce que quand on est fort et vaillant, on n'a pas besoin d'être général pour se sentir bien, pour se sentir à l'aise dans sa peau. Quand on est fort et vaillant, même quand on est bandit, on est apprécié par les bandits. Quand on est fort et vaillant, même quand on est cuisinier, on est apprécié parce que la force et la vaillance, le courage, c'est quelque chose qui rend quelqu'un noble. Les gens aiment cela. Mais il est écrit, cet homme fort et vaillant, costaud, puissant. Vous savez, pour être général à l'époque, ce n'est pas comme nous, à notre époque, où tu fais l'école de Saint-Cyr, l'école militaire de Saint-Cyr. Tu sors là-bas officier déjà, et puis quelques petites guerres que tu vas faire dans ta cabine de pilotage d'un avion ou bien d'un bateau. Après, tu deviens, après quelques dix années, une dizaine d'années, tu deviens général. Non. Là-bas, pour devenir général, il fallait d'abord passer par soldat, parce qu'il n'y avait pas de cours, il n'y avait pas d'école de Saint-Cyr là-bas. Donc, tu étais soldat, tu t'illustrais à travers ta vaillance, on t'augmentait en poste. Tu affrontais l'ennemi, il était vaillant. C'était un homme fort, jusqu'à devenir le chef de l'armée de Syrie. Il était fort et vaillant. Mais il n'y avait pas que ça. Il était général, chef de l'armée de Syrie. Il n'y avait pas que ça. Le roi l'aimait beaucoup. Il jouissait d'une grande considération auprès du roi. Il y a des généraux que le roi, dont le roi peut se méfier. Il te nomme général parce qu'il n'a pas le choix. Tu es l'homme le plus fort. Il te met là. Mais en même temps, vous n'avez pas vraiment de bons rapports. Lui, non seulement il était un bon général, il avait de bons rapports avec le roi. Mais bien aimé, il y a encore un détail qui nous montre que c'est un homme qui avait tout. C'est que même sa servante l'aimait. Parce que nous connaissons beaucoup de gens qui sont patrons, mais leurs domestiques ne les aiment pas. Les serviteurs ne les aiment pas. Mais lui, il était tellement bon que même sa servante, la petite là, l'israélienne, l'israélite, l'aimait. Il jouissait d'une bonne considération, d'une grande considération auprès de tous. Finalement, il avait tout. Il était fort, costaud, général, aimé du roi, aimé du peuple, aimé de tout le monde. Mais, un problème, il était lépreux. Et cela cassait tout. Il était lépreux. Bien-aimé, vous allez voir quelqu'un à la télé, habillé en costume, dans des grandes limousines, très beau physiquement, très belle physiquement, mais vous ne connaissez pas son point faible. Il a un point faible. Chaque humain a des points faibles, même pas un seul, mais des points faibles. Mais il y aura un point faible qui va commettre une paralysie pour toi. Chaque humain a ça. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le péché a en fait entrer la mort dans l'humanité. Donc nous sommes en train de mourir. Quand nous naissons, nous sommes en train de mourir. Et on ne peut pas être en train de mourir sans qu'il y ait des éléments négatifs en nous. La mort est produite par des choses négatives. La mort est produite par des insuffisances, par des carences. Petit à petit, les yeux se fatiguent, petit à petit, le cœur se fatigue, petit à petit, les poumons lâchent, la mort s'installe. C'est logique que dans tout homme, il y ait des points faibles. Parce que l'homme est un être qui est en train de mourir. Forcément en lui, il y a l'imperfection. Il ne faut pas rêver. Il y aura quelque chose dans ta vie. Ça peut être physique. Ça peut être quelque chose de spirituel. Ça peut être le fait que tu cherches à avoir un mari, tu cherches à avoir une femme. Ça peut être le fait que tu cherches à avoir des enfants. Ça peut être le fait que tu cherches à avoir, à gagner un match. Mais dans la vie de tout homme, il y a quelque chose qui est comme un point faible. Qui qu'il soit, François Mitterrand était président, mais les gens ne savaient pas qu'il avait le cancer. Mais lui, il le savait. Mais les autres ne le savaient pas. En tout homme, il y a quelque chose qui te bloque. Et même si les autres ont l'impression que rien ne te bloque, toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais ce qui te bloque. Toi-même, tu sais ce qui fait que tout n'est pas parfait chez toi. Et malgré les apparences que tu peux montrer à l'extérieur, toi-même, tu sais dans ton cœur que tout n'est pas parfait chez toi. Tout n'est pas parfait dans ta maison. Tout n'est pas parfait dans ton cœur. Tu connais. Et Naaman, son problème, c'était la lèpre. Il était fort, vaillant, aimé de tous, aimé du roi, général, puissant, riche. Mais il y a eu un bémol. Vous savez, il y a une phrase qu'on dit dans le monde, mais ils ont tout, ou il a tout pour être heureux. Mais, pourquoi on dit il a tout pour être heureux? Parce qu'il y a un mais après. Mais il a tout pour être heureux. Mais pourquoi il n'est pas heureux? Il y a un problème. Il est esclave de l'alcool. Parfois on se dit, mais c'est un beau garçon comme ça. Il gâche sa vie dans le cannabis. Voilà qu'il est devenu tout noir. Les lèvres noires. Tout. Il a tout pour être heureux. Il a tout pour réussir. Mais si on dit cette phrase-là, ça veut dire qu'il y a un mais quelque part. Parfois on dit, mais c'est un grand joueur. Et tu vas apprendre, tiens, c'est un homo. Oh. Tu as voulu faire de lui ta vedette, ton idole. Après un jour, tu apprends dans les commérages, ben c'est un homo. Oh. Il a tout. Moi, un jour, j'écoutais la radio au Maroc. J'apprends, ben, à 29 ans, le prodige néerlandais international Marco van Basten arrête le football parce que son genou, l'opération de sa cheville n'a pas réussi. C'était mon idole. Je me disais, il a 29 ans, il a 3 ballons d'or, il en aura 5 parce qu'il a encore du temps. Mais voilà, une nouvelle à la radio étouffe tous tes espoirs. Il avait tout pour avoir 5 ballons d'or, mais il ne peut pas. Cheville, KO. C'est ça le monde. Il y aura toujours quelque chose qui t'empêchera de croire que tu es Dieu. Il y aura tout, parce que c'est vrai aussi que tu ne l'es pas. Donc en toi, il y a quelque part une pourriture. En toi, il y a quelque part une insuffisance. En toi, il y a quelque part un manque. En toi, il y a quelque part un inachèvement. C'est logique parce que le péché est entré dans l'humanité. Et au début, qu'est-ce qu'on fait? On veut cacher ce qui ne va pas. Il y en a qui sont honnêtes, qui ne cachent pas. Mais il y en a qui veulent cacher. Mais malgré le fait que tu veux cacher, tôt ou tard ça se saura. Mitterrand longtemps cachait qu'il avait une fille, extra-mariage. Tôt ou tard, ça s'est su. Un jour ou l'autre, les gens savent qu'il y a un problème. Il y a des grands chanteurs, des grands musiciens parfois qui ne se lavent pas à cause de la magie. Au début, les gens ne savent pas. Mais un jour, un garde du corps va trahir le secret. Le boss, il ne se lave pas. Oh, ben oui, il ne se lave pas. Donc, il y a toujours un problème. Et puis, les gens maintenant vont te voir chanter, là, ben, il ne se lave pas. Il y a toujours quelque chose qui va bloquer. Et même si tu caches, ça se saura. Un jour ou l'autre. Pendant que tu es en train de jouer au foot, pendant que tu es en train de faire tes études, pendant que toi-même tu sais qu'est-ce qui bloque pendant que tu travailles. Et tu caches ça. Les gens voient l'ingénieur est en train de travailler. Toi-même tu sais que la dépression monte. Un jour ou l'autre, ça se verra. L'homme a toujours quelque chose qui bloque. Et c'est logique. Parce que sur cette terre, il n'y a pas la perfection. La perfection se trouve chez Dieu. Maintenant, le problème, c'est quelle est ta réaction face à ce manque, à cette imperfection, à cette pourriture? Quelle est ta réaction? Quelle est ta réaction? Il y a des gens, vous allez discuter avec eux, ils expliquent, mais oui, mais vous me voyez venir avec une belle voiture, avec tout ça, mais moi je ne dors pas la nuit. Ah bon? Oui, mais je ne dors pas la nuit. Il y a des esprits qui m'embêtent pendant toute la nuit. Mais vous, le matin, la journée, vous le voyez avec une Mercedes, vous l'enviez. Mais lui, il a fait des contrats. Et lui, il connaît sa réalité, mais toi, tu ne connais pas la réalité. Mais un jour, ça se saura. Nous, on connaissait un musicien dans le monde autrefois. Il ne dormait pas la nuit. Il avait loupé un contrat magique. À chaque fois qu'il voulait dormir la nuit, eh bien, il y a les esprits qui venaient l'attaquer. Donc, il ne dormait pas la nuit, il venait, il te prend, il achète la bière, vous vous amusez la nuit. Et quand il arrive le matin, lui, il s'endort maintenant. Les autres ont leur vie qui commence. Mais quand vous le voyez chanter, quand vous le voyez bien habillé, vous ne pouvez pas penser à cela. Il y a toujours quelque chose qui bloque. Il y a toujours quelque chose qui bloque. On peut penser que quelqu'un est parfait, il a tout réussi. Mais lorsqu'on s'approche de la personne, on se rend compte que tout n'est pas beau, tout n'a pas réussi. On se rend compte. Il y a des gens qui ont été premiers de classe depuis qu'il a commencé l'école. Un jour, il va tomber une année juste avec quelqu'un qui ne pourra pas dépasser. Il a beau faire ce qu'il voudra, mais il sera dépassé quand même. Et un jour, quelque chose va bloquer. Quelque chose va manquer. Un jour. Et cela nous montre que la perfection ne se trouve pas chez l'homme. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose te manque. Il y a quelque chose de pourri chez toi. Mais quelle est ta réaction vis-à-vis de ça? Naaman n'a pas caché. Tout le monde savait qu'il avait la lèpre. Et il vivait avec ça. Mais bien aimé, même dans nos faiblesses, soyons bons avec tout le monde. Vous savez, Naaman était bon avec tout le monde. Il était aimé de tous. C'est pourquoi la petite juive a dit à sa maîtresse, a dit, mais si le maître était en Israël, le prophète le guérirait. Bien aimé, vous croyez que si Naaman était méchant par rapport à cette fille-là, est-ce que cette fille-là aurait pensé à ça? Elle aurait ruminé dans son cœur, elle aurait dit, bon, il est méchant, c'est pourquoi il a la lèpre. Mais Naaman était gentil, était bon, selon les humains. Il était bien avec tout le monde. C'est pourquoi même la parole de Dieu dit, recherchez la paix avec tous. Respectez les aînés, les vieux. Quand j'avais fait un séjour aux États-Unis, je ne comprenais pas, je sors de chez moi, quelqu'un qui passe, il me dit bonjour. Je fais 100 mètres, on me dit encore bonjour par quelqu'un. Et je dis à mon frère, mais ici vous vous dites bonjour comme ça? Il dit oui, ici c'est bonjour. Parce que s'il y a le feu à 100 mètres, on te préviendra. Il faut garder de bonnes relations. Lorsqu'il y a un danger, on se prévient. Il faut, bien aimé, savoir avoir une attitude de bienveillance avec tout le monde. Et Naaman, à cause de ça, à cause de l'amour que même le roi portait pour lui, sur sa vie, eh bien, il a pu commencer déjà à voir le chemin de la solution s'ouvrir. Naaman a reconnu qu'il avait un problème. Il y a beaucoup de gens qui veulent cacher leurs défauts à travers des faux sourires, à travers des belles tenues vestimentaires, à travers des maquillages sophistiqués, à travers de l'argent, le bling-bling. Ils veulent cacher ce qu'ils sont. Il y en a même qui font des dons au Secours Populaire. Ils font des dons au Restaurant du Cœur. Ils veulent cacher en réalité ce qu'ils sont. Il y en a qui demandent à aider Haïti. Mais en réalité, c'est des gens qui ont fait souffrir leurs femmes, qui ont fait souffrir leurs maris, mais ils sont les premiers à dire « Nous allons aider Haïti ». Les gens veulent cacher leurs mauvais penchants, leurs défauts, en faisant montre de beaucoup d'amabilité, de beaucoup de gentillesse par des certains actes. Comme ça, ils vont bien cacher ce qu'ils sont. Mais tôt ou tard, il est écrit dans Marc 82, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Tôt ou tard, bien aimé, un défaut, c'est comme la pesanteur. Le poids qui nous fait qu'on tombe, qui fait que si tu sautes, tu tombes quand même. Tu peux monter dans un avion. Aujourd'hui, il y a des avions qui peuvent faire un jour, donc 24 heures. À 380, tu vas faire Singapour-Paris. 15 heures de vol. Tôt ou tard, l'essence va finir, tu vas descendre. Le poids va toujours te faire descendre. Tu vas prendre un parachute. Tu sautes de l'avion, tôt ou tard, tu vas descendre. Tu vas prendre le parapente. C'est comme une aile d'oiseau. Tu mets ça, tu descends la montagne de Rio de Janeiro. Tôt ou tard, tu vas tes pieds vont toucher au sol. Même quand tu vas prendre une fusée, tôt ou tard, tu vas revenir. La pesanteur va toujours te ramener au sol. Le défaut, c'est comme ça. On va chercher à les cacher. Tôt ou tard, ils vont dire à tout le monde, je suis là, et les gens verront. Oh, il est comme ça. Même après 10 ans, les gens verront. Le défaut, c'est comme la pesanteur. Alors la Bible nous donne un bon secret, c'est que toi-même viens vendre ton défaut aux autres, voilà. Tranquillement, juge-toi toi-même, dévoile-toi toi-même, comme ça t'es tranquille. Toi-même reconnais par exemple que tes oreilles sont grandes, comme ça t'es tranquille. Mais si tu veux les cacher, les gens vont toujours te rappeler, oh, mais tes oreilles, mais... alors toi-même reconnais ça tranquillement. On ne va plus t'embêter. Reconnais ton problème tranquillement. Ne cache pas ce qui te dérange. Naaman a reconnu qu'il était lépreux. Il a reconnu. Il n'a pas caché. Et c'est à cause de ça que la solution commence à venir. Les gens ont eu pitié. On dit, cet homme est vaillant et fort. Il est bon. Il faut faire quelque chose pour lui. La petite servante dit à sa maîtresse, « Maîtresse, si le maître était en Israël, en Samarie, le prophète l'aurait guéri. » Et ça arrive aux oreilles du roi. Le roi lui-même, il fait une lettre, « Vas-y, Naaman. » Bien-aimé, reconnaissons ce qui ne va pas. Tu as des enfants qui ne te font pas honneur. Reconnais-le. Ne cache pas. Ils ont des mauvais résultats à l'école. Reconnais-le. Tu vas te retrouver dans un repas familial. On dit, un tel a eu son bac, un tel a eu. Et toi, au lieu de dire, mon fils, il ne travaille pas bien. Oh non, l'école où il est, c'est pas bien, je vais le changer d'école. Oh. Reconnais qu'il ne travaille pas bien. Peut-être quand tu vas reconnaître comme ça, il y a un cousin qui peut l'aider, qui est là, qui va dire, ah bon, je vais m'occuper de lui. Reconnais, bien-aimé. Il y en a qui sont devenus spécialistes de donner tort aux autres. C'est toi le problème, ce n'est pas les autres. C'est toi. Parce que si tu es chrétien, tu as Dieu. Et Dieu peut te donner la solution à tout. Naaman n'a pas dit on m'a fait des fétiches. Naaman n'a pas dit on m'a jeté un sort. Il était lépreux. Ça n'a pas changé son caractère. Reconnais que c'est toi le problème. Reconnais le problème tel qu'il est. Même parfois si c'est pas toi, c'est ton mari, c'est ton fils, c'est ta femme. Reconnais. Ne cache pas. Quand l'affaire se présente, reconnais. Parce que comme la pesanteur, ça finira toujours par se manifester. Tu peux cacher comme tu veux, ça se manifestera. Vaut mieux reconnaître qu'il y a tel défaut, il y a tel problème. Je ne dis pas qu'on doit aller crier ça sur les toits, mais quand l'opportunité, l'occasion se présente, on doit reconnaître. S'humilier, bien-aimé. Ne pas cacher ses défauts en disant que la faute, c'est aux autres. Cherche-toi ce que tu dois faire pour que les choses changent. Ne cherche pas ce que les autres changent pour que toi tu changes. C'est toi qui dois changer pour que les autres changent. Voilà. C'est ça la réalité. Si toi tu changes, les autres vont changer. Ne cherche pas l'inverse. Bien-aimés, n'ayons pas honte des défauts, des tares, des manquements. Tout homme a ça. N'ayons pas honte. Tout homme a des manquements, tout homme a des tares, tout homme a des pourritures, soit chez lui, soit dans sa famille, soit... Tout homme a ça parce que le monde est imparfait. Le péché est dans le monde. N'ayons pas honte de cela. Comme je le disais récemment, aux États-Unis, les gens ont compris ça. Quelqu'un qui a une grosse tête, il va jouer dans certains films. Facilement. Il n'a pas honte. On sait que lui, quand il faut chercher quelqu'un qui a une grosse tête, c'est lui qui est là. Et il utilise ça. Il reconnaît et il utilise ça. Quelqu'un qui est court, on va l'utiliser dans tel rôle. Et souvent, vous allez voir dans les films, il est toujours dans le même rôle, mais il gagne son argent. Toi, tu vas parler, mais lui, il est bien. Bien-aimé, reconnais et à partir de la reconnaissance, la solution commence. La solution commence là. Quand tu reconnais, on te dira, bon, c'est vrai, tu as tel problème, tu ne peux pas faire du cyclisme, mais tu peux faire l'athlétisme. Mais si tu t'entêtes, tu ne veux pas reconnaître, tu veux faire à tout prix le cyclisme, tu vas échouer et tu vas perdre beaucoup, beaucoup d'années. Alors que si tu reconnais ton problème, on va te dire, ah oui, c'est vrai, tu as ça, mais tout n'est pas perdu. Il y a telle solution. Tu peux, au lieu du cyclisme, faire l'athlétisme. Parce que tu ne peux pas faire 4 heures de course, de travail, mais tu as une capacité qui peut faire que pendant 5 minutes, tu peux produire une grosse énergie. Donc, on t'oriente de telle manière. Mais si tu caches, tu vas t'enfoncer et tu vas entrer dans une impasse, bien-aimé. Soyons honnêtes avec nous-mêmes et avec les autres. Quand l'opportunité se présente, reconnaissons. Il y a tel tas, tel manquement et ce n'est pas une honte parce que dans tout homme, il y a ça, bien-aimé. Et même quand tu caches, ça va se manifester. Vous croyez que Mohamed Ali, on a su tout de suite qu'il avait la maladie de Parkinson. Sûrement sa famille a caché pendant une année, peut-être 18 mois. Mais tu vas cacher jusqu'à quand? Tôt ou tard, ça se verra. Reconnais. Tu vas couver la chose jusqu'à quand? Plus tôt tu reconnais, plus tôt le processus de la solution s'installe. Et Naaman, c'était connu qu'il était lépreux. Et donc, je crois que comme il était bon, chacun était en train d'imaginer, mais comment Naaman, notre général peut être guéri? Le roi y pensait. Tout le monde y pensait. Mais comment on peut l'aider? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout le monde était en train de penser jusqu'à ce que cette servante-là, juive, y pense aussi. Mais elle était connectée à Dieu, au véritable Dieu. Et quand on est connecté au véritable Dieu, il y a toujours une solution. Bien-aimé, c'est la deuxième étape. Quand tu as reconnu, reconnais que tu es petit et que Dieu seul peut résoudre ton problème. Dieu seul peut résoudre ton problème. Ne cherche pas à prouver que tu peux faire quelque chose. Dieu seul peut. Je recommence, bien-aimé. Qu'est-ce qu'on a dit de Naaman? Il était général. Général d'un grand pays. Aimé du roi. Aimé de tout le monde. Il était comment? Il était fort. Il était comment? Il était vaillant. Mais, est-ce que tout cela pouvait le guérir de la lèpre? Non. Que tes qualités ne te fassent pas entretenir tes défauts. En te disant, je suis quand même fort, je suis quand même intelligent, je peux traîner l'alcool avec moi dans ma vie. Non. En te disant, je prie beaucoup, je peux demeurer toujours orgueilleux. Parce qu'en échange, je prie beaucoup. Non. Que tes qualités ne te donnent pas le droit d'entretenir tes défauts. Non. Parce que tu ne trouves pas comment t'en sortir, tu décides que tes qualités vont équilibrer tes défauts. Non. Tes défauts que tu entretiens à cause de tes qualités finiront par te détruire. Réveille-toi, humilie-toi et viens voir Jésus. Jésus dit dans Jean 6, 37, « Je ne rejette personne qui vient à moi. » Viens voir Jésus. Jésus a la solution. Naaman s'est humilié. Il a dit, bon, je vais faire le voyage. Je vais aller voir Dieu en Israël. Je vais aller voir le prophète. Mais Naaman, quand il partait toujours en qualité de qui? De général. Il partait en qualité de qui? D'homme fort et vaillant. Donc, il imaginait quel est le traitement qu'on peut avoir vis-à-vis d'un homme fort et vaillant. Comme un jour, une de nos anciennes sœurs a été hospitalisée. Elle arrive, on lui dit, mais il n'y a pas de chambre. Et puis, après on lui donne un résidu, un petit endroit comme chambre. Elle dit, mais je vois là, l'autre chambre, elle est vide. On dit, mais non, ça on prépare parce qu'il y a un homme d'état qui arrive, il va être hospitalisé. Vous voyez, deux traitements. Donc pour l'homme d'état, on avait arrangé tout comme il faut, une grande chambre, et elle, on l'a mis dans un petit coin, et elle s'est dit, mais tiens, donc lui, c'est un homme différent, quoi. Alors Naaman est en train de venir. Je suis général, je suis homme vaillant, je m'humilie quand même, je viens vers un prophète, mais qu'il me traite comme je suis quand même. Qu'il me traite selon mes qualités. Comme certains qui viennent. Bon, je m'humilie, le pasteur va me baptiser. Mais qu'il sache que j'ai un bac plus 23. Donc, qu'il ne me pousse pas trop dans l'eau. Oh, bien-aimé. Il paraît d'ailleurs que le baptême par aspersion, c'est parce qu'il y a un roi qui a refusé qu'on le plonge dans l'eau. Il paraît. Après, on lui a aspergé un peu d'eau. C'est comme ça que ça a commencé. Donc, Naaman était en train de venir. Général, homme. Lui, il considère qu'il s'humilie déjà. Qu'il se déplace déjà comme ça. Lui, il considère qu'il est déjà humble. Bien-aimé, on se trompe toujours. On se croit humble. Mais Dieu nous prouvera toujours qu'on ne l'est pas. Il nous le prouvera. Pour Naaman, déjà, le fait de venir à Samarie, c'était l'humilité. Et pour beaucoup, ils se disent, ah, moi, j'ai quitté beaucoup de choses, hein. Moi. Mais Dieu te démontrera que tu n'as pas tout lâché. Il arrive. Ben, on lui envoie, peut-être sûrement un jeune serviteur. Monsieur Naaman, est-ce que le prophète dit d'aller vous laver 7 fois dans l'eau là-bas? Quoi? Mais il se prend pour qui? Naaman se dit, mais ce prophète-là se prend pour qui? Il ne sait pas qui je suis. Ah, mais si tu étais fort, tu aurais dû te guérir. Bien-aimé, si tu es si fort que ça, tu dois pouvoir résoudre tes problèmes. Alors, si tu viens vers Dieu, viens par la porte étroite. La porte étroite, on se baisse pour entrer dans la porte étroite. On nous l'a montré quand on est parti en Israël, il y a une grande porte, et dans la grande porte, il y a une petite porte. Et dans la vie de tous les jours, on n'utilise que la petite porte, qui s'ouvre à l'intérieur de la grande porte. Et cette petite porte ne fait passer qu'une seule personne, et la personne, pour y passer, doit un peu lever la jambe et aussi s'accroupir parce que la petite, elle est petite, c'est une petite porte, c'est ça la porte étroite. Et quand il y a la grande frette, on ouvre la grande porte. 4-5 personnes peuvent passer à travers la grande porte. Mais quand il n'y a pas de grande fête, la grande porte est fermée. On utilise la petite porte pour faire des mouvements dans la maison. Bien-aimé, quand tu viens à Dieu, viens par la porte étroite. Oublie qui tu es ou qui tu étais. Il y a des gens qui viennent déjà avec des a priori. Je viens aider l'église. Mais tu sais c'est quoi l'église? L'église, c'est la maison de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut aider Dieu? C'est comme un couple était venu. Mais pasteur, on vient te voir parce que nos affaires ne marchent pas alors que nous, quand on est venu dans cette église, c'était dans l'esprit d'aider l'église financièrement. Moi, je dis, mais vous ne pouvez pas aider l'église financièrement. L'église est déjà riche. C'est l'église qui peut vous aider, vous. L'église, c'est l'église de Dieu. Même si nos comptes bancaires sont vides, mais nous, on est riches parce que nos comptes bancaires sont célestes. Ici, ce n'est que la succursale du ciel. Bien-aimé, il venait comme un vaillant, fort, un général. Ne venons pas à Dieu avec cette logique-là. C'est pourquoi, moi, je dis aux bien-aimés qui sont formés pour devenir pasteurs ou encadreur, bien-aimé, ne flattez pas les gens. Tout homme doit s'humilier devant Dieu. Il ne faut pas dire aux gens, Dieu a besoin de toi, c'est faux. C'est lui qui a besoin de Dieu. Il faut dire aux gens, vous avez besoin de Dieu, parce que si vous ne vous convertissez pas, le péché qui est en vous vous détruira. Vous êtes des gens qui êtes en train de mourir à cause d'un mal qu'on appelle le péché, qui est en train de vous détruire à petit feu. Vous devez venir à Jésus pour qu'il vous délivre de cela. Et le Seigneur lui-même l'a dit, si vous ne vous convertissez pas, vous mourrez dans vos péchés. Les gens qui prêchent, Dieu a besoin de toi, Dieu veut se servir de toi. Non. Tu as besoin de Dieu, parce que si tu ne viens pas à Dieu, tu mourras dans ton péché. Ta maladie de péché est en train de te tuer pour t'amener en enfer. Il n'y a qu'un seul qui peut t'en libérer, Dieu, par son Fils Jésus-Christ. On ne doit pas flatter les gens. Élisée savait cela. Il savait qu'il était le représentant du véritable Dieu et que tout genou doit fléchir devant ce Dieu-là. Bien-aimé, ce n'est pas de l'orgueil, c'est la vérité. Tout genou doit fléchir devant Dieu. Alors quand nous présentons l'évangile, quand nous travaillons pour le Seigneur, il faut faire comprendre à tout homme, on doit fléchir les genoux devant Dieu. Il n'y a pas de grand devant Dieu. Tout le monde est petit. À commencer par celui qui prêche, tout le monde est petit. Dieu seul est grand. Et beaucoup viennent des gens en grand parce qu'ils se comparent aux autorités qui sont des humains. Ils se comparent à leur vis-à-vis. Or, les autorités ne sont que des canaux. Ils font l'œuvre de Dieu. On a affaire à Dieu. On n'a pas affaire à eux. Et ils ne sont que des instruments. Bien-aimés, soyons sérieux avec Dieu. Et quand Élisée dit par un messager à Naaman, va te laver cette fois. » Il dit, « Mais non, pour qui il se prend ? Je croyais qu'il viendrait, il allait m'honorer, et ensuite il allait invoquer le nom de son Dieu. » Donc, finalement, donc c'est Dieu qui doit se prosterner devant Naaman. Non, mais c'est toi qui viens chercher l'aide et tu veux que on t'honore. Bien-aimé, qu'est-ce que nous venons chercher à l'église ? Vous et moi, nous venons chercher l'aide de Dieu. Pourquoi nous voulons qu'on nous honore ? Nous venons chercher l'aide de Dieu. Moi, le premier. Seul Dieu peut nous donner la véritable vie où tu vis sans souci. Seul Dieu peut nous guérir de nos problèmes. Seul Dieu peut résoudre nos problèmes. Pourquoi nous devons venir dans une logique que nous soyons honorés ? Non ! C'est Dieu seul qui doit être honoré. C'est lui seul qui est la source. Humilions-nous, bien-aimés. Le Seigneur veut nous amener à une autre étape. Changeons de manière de venir à lui. Ne venons pas avec des accusations. C'est vouloir être honoré. Ne venons pas avec des calculs sur les autres. C'est vouloir être honoré. Humilions-nous et réclamons à Dieu. Prions que Dieu nous accorde sa bonté, sa bienveillance. Parce que nous sommes, sans lui, des gens perdus. Sans lui, nous sommes des gens sans force. Et sachez, bien-aimés, que Dieu ne nous proposera pas la solution que nous attendons. Naaman pensait qu'on allait lui dire, Élisée allait sortir, Élisée allait invoquer le nom de son Dieu, peut-être Élisée allait lui faire une scarification à l'épaule. Mais c'était pas ça. Parce qu'il est écrit dans la parole, mes pensées ne sont pas vos pensées. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Bien-aimés, quel est ce brisement qui peut se faire lorsque nous-mêmes, nous le connaissons ? Ce n'est plus un brisement. Quelle est cette épreuve qui sera efficace si nous-mêmes nous l'avons décidé ? Ce n'est plus une épreuve. Une épreuve est efficace parce que nous ne l'avons pas décidé, parce qu'elle nous a surpris, parce qu'elle se passe telle qu'on ne l'aurait pas imaginé. C'est là qu'elle devient vraiment une épreuve qui nous amène à changer. Alors lorsque nous sommes surpris, lorsque nous sommes éprouvés, on se fâche parce qu'on veut être honoré. Non, le Seigneur ne va honorer personne sur terre. Il va nous honorer au ciel. Sur terre, il va nous éprouver, il va nous purifier. Et pour nous purifier, il va nous abaisser. Naaman venait chercher quoi ? La guérison. Mais Dieu voulait lui donner quoi ? La vie. À quoi ça sert d'être guéri si on ne reçoit pas la vie? Toi, tu cherches quoi? La solution par rapport à ton esthétique. Tu cherches la solution par rapport au mariage, par rapport aux enfants. Tu cherches la solution par rapport à l'argent. Tu cherches la solution même parfois par rapport à la conversion. Tu cherches la solution, peut-être, tu veux être sûr que tu iras au ciel, tu veux... Nicodème est venu vers Jésus la nuit pour chercher une solution par rapport à l'éternité. Il pensait que Jésus lui allait lui dire, il faut lire tel passage, répéter ça 100 fois. Là, c'est bon. Tu as la vie éternelle. Il vient vers Jésus, Jésus dit, Nicodème, il faut naître de nouveau. Oh, Nicodème dit, mais moi, je viens chercher une réponse claire. Toi, tu me demandes de naître de nouveau. Attends, moi, je ne peux pas redevenir un enfant. Bien-aimé, Dieu te donnera la réponse que tu n'attendais pas. Parce que si tu attendais cette réponse, ça veut dire que tu avais déjà la solution. Alors pourquoi tu es venu à Dieu? C'est parce que tu n'avais pas la solution. Donc forcément, la réponse qu'il donnera, tu ne t'y attends pas. Mais quand il donne cette réponse-là, mais oui, mais je ne m'y attendais pas, c'est pas la réponse. C'est ça la réponse. C'est toi qui ne veux pas, bien-aimé. Dieu va utiliser des pasteurs. Il va utiliser des chrétiens pour te donner des réponses que tu n'attendais pas. Pour te coincer. Parce que sinon, si tu t'attends, où est l'épreuve ? Dieu veut épuré. C'est pourquoi, laisse-le faire, bien-aimé. Humilions-nous. Naaman a voulu faire le costaud. Son serviteur dit, Naaman, mais on a fait des kilomètres. Et c'est ce que moi je peux nous dire aujourd'hui. Tu as arrêté la cigarette. Tu as arrêté la débauche. Tu as arrêté d'aller dans les boîtes de nuit. Tu as arrêté l'alcool. Maintenant, tu es auprès de Dieu. Il ne te reste plus qu'à te soumettre à lui. C'est là que tu lâches. Tu as fait des kilomètres, Naaman. Les gens savent que tu es venu en tant que lépreux ici. Tu vas retourner en Syrie encore en tant que lépreux. Pourquoi? Alors que tu as fait toute cette distance-là. Bien-aimé, nous avons fait déjà beaucoup de sacrifices. Maintenant, nous arrivons à la porte de Dieu où il faut juste s'agenouiller. On refuse. On dit non. Moi, j'ai déjà fait beaucoup de sacrifices, donc il faut que je sois honoré. Non. Au contraire, il faut que tu continues jusqu'au bout parce que tu as déjà fait la grande partie. Il ne te reste plus qu'à te soumettre totalement à Dieu. Tu as déjà fait beaucoup de sacrifices pour lui. Mais il te reste une chose. Oublie que tu es général. Oublie que tu es vaillant. Oublie que tu es fort. Il te reste à t'oublier toi-même. Tu as renoncé à beaucoup de choses, mais tu dois renoncer à toi-même maintenant. Tu dois accepter la solution que Dieu te propose. C'est ça, renoncer à soi-même. Parce que qu'on le veuille ou pas, chacun a sa solution. Mais si sa solution était efficace, on ne serait pas venu à Dieu. Si cette solution était efficace. Acceptons la solution de Dieu. Jésus a dit à Nicodème, Nicodème, il faut naître de nouveau. Mais je ne comprends pas. Il dit, mais comment tu ne comprends pas? C'est écrit déjà dans Ézéchiel. C'est écrit dans Jérémie aussi. Mais je t'explique, il faut que tu naisses de nouveau. Parce qu'aller au ciel, ce n'est pas une question de lecture de la Bible en grande quantité. Ce n'est pas être docteur, c'est juste naître de nouveau. Et seul Jésus-Christ. C'est à cette occasion que Jésus donne Jean 3,16. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu ne reçois pas ce cadeau, Nicodème, tu n'iras pas au ciel. Nicodème ne s'y attendait pas. Et comme tu ne t'attendais pas, toi, à ce que Dieu te dise ce qu'il est en train de te dire maintenant. Et comme tu ne t'attendais pas à la solution que Dieu te propose par rapport à ton problème, par rapport à ton insuffisance, par rapport à ta carence, par rapport à la pourriture qui te dérange, ça fait un moment. Dieu te parle, il te propose des solutions. Mais tu trouves que ce n'est pas lui parce que ça ne t'arrange pas. Ou Dieu parle ou Dieu ne parle pas. Ou Dieu a mis des autorités où il ne les a pas mises. Quand Naaman venait, il comptait sur qui? Sur Élisée? Mais c'est qui a donné l'ordre d'aller se baigner dans l'eau? C'est Élisée. Mais il comptait sur Élisée. Élisée donne l'ordre et refuse. C'est ça les hommes. Quand ils viennent, ils écoutent. Ils disent, mais le pasteur prêche, c'est la vérité. Mais maintenant, quand tu le reçois dans le bureau, quand tu lui parles chez lui, tu lui donnes la ligne à suivre. Ah non, mais c'est la même personne sur qui tu as compté. Mais c'est la personne qui te conseille maintenant. Bien-aimé, il faut qu'on soit cohérent avec nous-mêmes. Il y en a même qui disent, ah moi j'étais chez moi, j'ai fait un songe, j'ai rêvé le couloir là de l'église, je n'ai jamais vu ça. Mais quand je suis arrivé, je me suis rappelé que j'avais vu ça dans le songe. Vraiment Dieu m'établit ici. Rendez-vous dans une année. La personne, on apprend seulement à distance que, ah, j'avais eu un problème, on ne m'a pas visité, j'ai quitté cette église-là. Oh, mais c'est toi qui avais dit que Dieu t'avait établi parce que tu avais vu le couloir à l'avance. Nous, on n'a même pas vu le couloir, nous autres, mais on est toujours là. Toi, tu as vu le couloir au moins. Bien-aimé, les gens ne sont pas cohérents. Tu as dit que Dieu t'avait mis là. Il y en a même qui dit, pasteur, moi, je t'ai vu, hein. En tout cas, c'est toi que Dieu a établi pour moi. Rendez-vous dans 18 mois. Ah, les pasteurs, ils commencent toujours comme ça, ils finissent mal. Oh. Dis la chose que tu reproches clairement. Oh, il y a beaucoup qui ont commencé comme ça. Oh. Mais lui, il a commencé, maintenant, il a fini comment? Mais lui aussi finira comme ça. Mais c'est toi qui avais vu. Moi, je ne t'avais pas vu, c'est toi qui m'avais vu. Bien-aimé, il faut être cohérent. Ce que tu dis, respecte-le. Tu l'as vu? Ah, mais maintenant, lui, il te donne l'instruction. Ben, il faut accepter. Ah, donc, reconnais. Bien-aimé, ayons l'humilité maintenant de dire ce que j'avais vu, c'était un songe satanique. Mais les gens ne vont même pas le dire. Ils restent seulement dans les vagues. Oh, bien-aimé, c'est l'incohérence. C'est l'irresponsabilité. Les gens se contredisent eux-mêmes. Il était venu parce qu'on lui a parlé d'Élisée. Arrivé sur place, Élisée lui parle, ça change maintenant. Oh, pour qui il se prend? Mais toi, tu étais venu pour lui. Tout le monde te l'a recommandé. Tu es venu. Alors soumets-toi. Son serviteur lui dit, mais Naaman, on a fait trop de kilomètres. Bien-aimé, moi aujourd'hui, je nous dis, bien-aimé, on a fait déjà trop de sacrifices. N'arrêtons pas en chemin. On a déjà quitté beaucoup de choses. N'arrêtons pas en chemin. Allons jusqu'au bout de notre brisement. Venons en nu devant Dieu et devant les hommes. C'est pas grave. On a déjà fait trop de sacrifices. Les gens nous ont vu louer l'Éternel. Les gens nous ont vu acclamer l'Éternel. On a déjà fait trop de pas. C'est le moment. Ne cherche pas des arguments pour continuer dans le péché. Ne cherche pas des arguments. Il y a parfois des gens, on leur donne un conseil. Ils acceptent pas. Ils vont demander à d'autres chrétiens. On leur dit la même chose. La Bible, c'est la même partout. Ne cherche pas des arguments pour continuer dans un péché. Reconnais ton problème, c'est un péché, c'est un blocage, c'est une pourriture. Reconnais ça et demande l'aide de Dieu. Ne cherche pas à transformer la Bible. Quand Élisée, quand Naaman a reconnu qu'il avait tort, il est parti se laver. Il a dit, c'est vrai. Je suis venu parce qu'on m'a recommandé cet homme. Cet homme est un homme de Dieu. Il me demande de faire ça, mais je vais le faire. Ce n'est pas de, en plus, ce n'est pas compliqué. Bien-aimé, en réalité, la solution de Dieu n'est même pas compliquée. Vous savez, elle n'est compliquée que parce qu'on ne s'y attendait pas, c'est tout. Quand on ouvre les yeux, quand on réfléchit calmement, la solution de Dieu n'est pas compliquée. Elle est compliquée juste parce qu'on ne s'y attendait pas. On ne s'attendait pas à ce qu'il parle de cette manière-là, qu'il fasse les choses comme ça. On ne s'attendait pas, mais quand on réfléchit tranquillement, on se rend compte que mais, sa solution, c'est ça qui est la meilleure. C'est elle qui est simple même à mettre en place, en action. Il va se laver et il sort guéri. Il dit, mais j'allais louper, bien-aimé. Allons jusqu'au bout du brisement. Laissons Dieu réparer notre défaut. Maintenant, la conséquence a été quoi? C'est que quand il est revenu vers Élisée, il a dit, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Prends l'argent. Élisée dit, je ne prends pas. C'est Dieu qui a fait, ce n'est pas moi. Donc je ne prends pas d'argent. Naaman dit, Élisée, même quand je rentrerai chez moi, je n'adorerai que ton Dieu. C'est toi qui sers le véritable Dieu. Naaman était venu chercher la guérison. Il est reparti avec la vie éternelle. Il est reparti avec la guérison aussi. Bien-aimé, en ce qui nous concerne, on n'aura pas toujours ce qu'on demande à Dieu, une réparation. Moi, je me souviens quand j'avais environ 11 ans, il y avait une campagne d'évangélisation dans un stade, dans un terrain, dans mon pays d'origine, et on a dit, priez, touchez l'endroit où vous avez un problème. Je m'étais écrasé le doigt quand j'avais 5 ans environ. Et j'ai touché mon doigt pour que mon doigt se rétablisse. Mais ça s'est pas rétabli jusqu'aujourd'hui. Mais je suis sorti avec la confiance que Dieu existe. Bien-aimé, tu étais venu pour quelque chose que tu croyais important. Tu te rends compte finalement que c'était pas si important que ça. Ce qui était important, c'était de connaître Dieu, de recevoir la vie éternelle. Tu as un souci, tu as un problème. Viens à Dieu, soumets-lui. Quand tu sortiras non seulement avec la solution de ton problème, mais avec la vie de Dieu, avec sa sagesse, avec sa pensée qui te rend plus que vainqueur, qui te rend très fort, qui te transforme intégralement. Tu es complètement transformé. Et quand j'ai dit la solution, il ne s'agit pas de la manière de Naaman forcément. Peut-être que toi, tu ne seras pas guéri physiquement, mais tu auras une puissance qui dépasse ton problème. Peut-être que tu ne seras pas marié. Peut-être que tu n'auras pas d'enfant à l'instant où tu as prié, où tu es venu parler au Seigneur. Mais tu ressors avec l'autorité du ciel, avec la paix et l'assurance. Tu ressors avec la vie, bien-aimé. Et la vie, c'est plus que tout. Le Seigneur veut nous donner l'autorité du ciel et la vie. Et ce qui nous paraît pour nous comme des défauts, des manques, des pourritures dans nos vies, servons-nous-en pourquoi ? Pour reconnaître que nous sommes petits, incapables. Deuxième chose, servons-nous-en pourquoi ? Pour aller prier. Parfois, nous ne prions pas parce que nous n'avons pas quoi demander. Tout est bon. Alors, quand on se rend compte qu'il y a des pourritures, il y a des manques, il y a des insuffisances, il y a des inachèvements. C'est des stimulants pour prier maintenant. Et quand on prie, nous ressortons avec la paix. Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance remplira vos cœurs par Jésus-Christ. Et quand tu sors de la prière, tu sors de la recherche de Dieu, tu sors avec l'autorité divine. Et tu sais que ton problème est réglé. Ce n'était pas en réalité un problème. Parce que Christ a tout accompli à la croix. Servons-nous de ces insuffisances pour nous humilier. Il est écrit, Naaman était fort et vaillant, général, mais il était lépreux. Toi aussi, tu as presque tout. Mais il te manque quelque chose. Ah, si seulement mes enfants pouvaient se convertir. Ah, si seulement je pouvais avoir un CDI. Ah, si seulement un tel pouvait m'aimer. Ah, si seulement. Sers-toi de ceci seulement là pour t'humilier devant Dieu. Dire Dieu, ma vie est inachevée et parfois il y a des pourritures. Viens changer cela. Viens transformer. Je crois en ta toute puissance. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire? Écouter l'instruction par le canal que toi-même tu avais reconnu comme celui de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi qui avais reconnu ce canal-là. Eh bien, écoute l'instruction par ce canal. Bien sûr, aujourd'hui nous avons la Bible, nous comparerons toujours avec la Bible. Mais Dieu a choisi des bergers, des autorités, des canaux que nous-mêmes nous avons reconnus, pas quelqu'un d'autre. C'est nous qui avons reconnu ce que c'est le canal. Alors écoutons l'instruction comme des enfants. Ne changeons pas en cours de route comme Naaman qui a voulu changer de canal alors que c'est lui-même qui venait pour ce canal-là. Bien-aimé, et nos vies seront transformées. Beaucoup de chrétiens traînent par incohérence. Ils ont dit c'est ça le canal et quand le canal veut nous amener quelque part, on change. On dit, ce n'est plus. Mais finalement, qu'est-ce que tu veux? Soyons cohérents. Tu venais au culte en disant, Dieu va me parler. Et quand Dieu parle, c'est pas comme ça que je voyais les choses. Mais c'est pas toi de voir, c'est à Dieu de voir. Humilie-toi, bien-aimé. Les six seulement là, que ça te serve à cela. Aujourd'hui est un jour nouveau où Dieu veut restaurer des choses et résoudre des problèmes. Venons en humiliation auprès de lui. Écartons les accusations sur les autres, les pensées sur les autres. Écartons l'accusation sur Dieu. Dieu ne peut pas se tromper, c'est nous le problème. Disons au Seigneur, viens agir là où ça ne va pas dans ma vie. Amen. Prions le Seigneur. Nous venons prier, Père éternel, que tu viennes agir là où ça ne va pas dans notre vie, Seigneur. Naaman avait tout, Seigneur, mais il était lépreux. c'est ce qui n'allait pas dans sa vie. Seigneur, parfois nous semblons avoir tout, mais il y a quelque chose qui bloque. Mais au lieu de décourager et de se mettre en colère, nous voulons nous humilier, reconnaître que c'est nous qui avons le problème. Ce n'est pas les autres ni toi. Nous soumettre à toi et te laisser nous transformer. Pardonne-nous, Seigneur, toute forme d'orgueil, toute forme d'incrédulité. Pardonne-nous, Seigneur, toute forme de résistance à ta parole. Tu nous as donné ta parole. Nous avons dit que c'était ta parole. Maintenant, quand il faut la pratiquer, nous créons des obstacles, Seigneur. Aide-nous à la pratiquer comme de vrais serviteurs. Un serviteur ne discute pas les ordres de son maître. Il les exécute. Seigneur, viens agir là où ça ne va pas dans nos vies, Seigneur. Et en même temps, Seigneur, donne-nous la vie. Lorsque Naaman a été guéri, il n'a plus eu envie de ses richesses. Il avait juste envie de les donner toutes à Élisée. Pourtant, quand il retournait sans la guérison, il retournait avec ses richesses. Nous ne voulons pas, Seigneur, retourner avec nos richesses. Nous voulons les abandonner, nos titres, nos diplômes. Ce que les gens disaient de nous autrefois, comme qualité, nous voulons les abandonner à tes pieds, au pied de ton trône, Seigneur. Nous voulons nous prosterner et dire, Seigneur, prends nos vies. Fais de nous ce que tu veux, Seigneur. Au pied de ton trône éternel, je me prosterne devant toi.